急げ来い、それでも男か。
ゲームラディオ。
Dans un futur proche, certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 57e épisode du podcast Game Radio. Je reviens de vacances pour ma part, donc je suis normalement en pleine forme, sauf que ça a été relativement dur ce matin de se lever à 7h. Et là j'ai un petit contre-coup, mais bon, ça devrait le faire. Alors on devait retrouver aussi Shoham aujourd'hui, après une petite semaine d'absence. J'ai vu d'ailleurs que la plupart d'entre vous, vous aviez hâte de nous retrouver. Nous aussi, j'avoue, mais Shoham aujourd'hui a un petit problème de connexion, donc il ne sera pas avec nous. Et je suis donc tout seul dans cette émission. Enfin non, c'est pas vrai, puisqu'aujourd'hui cette émission, on avait prévu de le faire, est consacré au Stunfest 2010. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit. Vous en saurez donc plus dans la deuxième partie de cette émission. Je rappellerai juste rapidement que c'est, enfin, à mon sens, la plus grosse manifestation française consacrée aujourd'hui aux jeux d'arcade, aux jeux musicaux et au versus fighting. Cette édition, cette prochaine édition, l'édition 2010, se tiendra les 22, 23 mai prochains à Rennes. Et qui de mieux pour nous en parler qu'un de ses organisateurs. Et j'ai la chance, le plaisir, le bonheur d'avoir avec moi Aymeric aujourd'hui dans cette émission. Aymeric, bonjour.
Salut.
Voilà. J'ai fait une petite...
Oui, tu n'es pas tout seul, non, je te rassure.
Voilà, je ne suis pas tout seul. Et c'est pas évident parce qu'en fait, il y a 10 minutes, l'émission aurait dû être faite un petit peu différemment. Et donc j'improvise à nouveau quelque chose aujourd'hui. Alors on avait prévu avec Shoham de vous parler dans la première partie de l'émission donc des sorties de la semaine, comme on le fait plus ou moins à chaque fois en début de semaine, donc le lundi. Et je vais le faire quand même, mais rapidement. Si tu veux, bien entendu, Aymeric, tu es là, donc tu peux intervenir. Je te demanderai peut-être ton avis sur 2-3 jeux, pourquoi pas. Premier jeu qui sort cette semaine, c'est Splinter Cell. Alors, il sort pas sur Xbox 360, ça c'est déjà fait, hein. C'était il y a 15 jours maintenant. Non, il sort sur PC, voilà, vous le voyez, les PCistes, pour une fois, n'auront pas eu à attendre plusieurs mois avant d'avoir leur version du jeu sur leur plateforme préférée. Donc, vous pourrez, si vous jouez sur PC, jouer à Splinter Cell dès la fin de la semaine. Je connais pas le prix du jeu, ça doit être aux alentours de 50€, je pense. Donc, c'est bien entendu moins cher que sur console de salon. Et puis, sur PC, il y a aussi deux point and click qui sortent cette semaine. Et oui, deux point and click. Le premier, c'est les chroniques de Sadwick, The Whispered World. J'essaye de faire des efforts dans ma prononciation en anglais. Non, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont indiqué que j'avais des difficultés dans ce domaine. Donc je fais de mon mieux.
Ils ont qu'à pas faire des titres compliqués comme ça, et ça serait beaucoup plus simple pour les noms anglophones.
Tout à fait. Alors en général, je demande à Shoham, quand il est là, de me faire une petite traduction. Alors The Whispered World, je ne sais pas, le monde désespéré, peut-être.
Non, Whispered, c'est chuchoter, quoi.
D'accord, le monde chuchoté. Ah ben ça colle très bien avec l'univers, hein, puisque dans le jeu, en fait, on incarne un personnage qui s'appelle Sadwick, un jeune clown plutôt triste qui voyage dans un univers assez mélancolique, assez triste, assez noir. Donc il y a une ambiance vraiment particulière. Et le jeu, apparemment, est plutôt réussi, reçoit un bon accueil. Et le deuxième point and click qui sort cette semaine, c'est un nouvel épisode de Sam & Max. Je pense que ça, tu connais.
Oui, complètement, ouais.
Voilà, Sam & Max saison 2, à travers le temps et l'espace, voilà, qui sort donc là, je crois que c'est le 29 avril. Et c'est, si je me trompe pas, enfin, je crois que dans cette deuxième saison, il y a à peu près 5 épisodes qui sont proposés, voilà, dans ce package-là. Voilà, ça vous l'aurez à la fin de la semaine.
Ah, ça, c'était une super série que j'ai peu joué, enfin, mais que je connaissais à l'époque, et oui, qui a fait des ravages, on va dire, quand c'est sorti. Enfin, ça avait vraiment un côté fun, profond en tant que jeu d'aventure, etc.
Ouais, tout à fait.
Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Tiens.
Moi, ce qui me surprend toujours, c'est de voir que des point and click, le principe paraît assez rétro finalement, et encore aujourd'hui, ça sort. Il y en a toujours. C'est un mode de jeu, enfin, c'est un type de jeu qui perdure dans le temps, et on le voit avec Sam & Max. Hein, je crois que ça date des années 80-90.
Ah ouais, les premières versions, je veux pas dire de bêtises, mais sont sorties sur des supports Amiga, Atari. C'est pas tout jeune. Hein.
Non, c'est pas tout jeune. Plus récent. Sur PS3, cette semaine, vous allez enfin pouvoir rejouer à God of War. Alors, pas le 3, mais le premier épisode et le deuxième épisode, puisque God of War Collection sort enfin chez nous. Il était déjà dispo au Japon. Et voilà, vous allez pouvoir vous y essayer à nouveau, ou en tout cas, pour ceux qui n'y ont pas joué, redécouvrir ou découvrir God of War tel qu'il était proposé sur PlayStation 2. Et là, vous allez pouvoir le redécouvrir en haute définition, puisque voilà, PlayStation 3 arrive, next gen étant, vous allez pouvoir regoûter aux joies de ce jeu, version avec une version remasterisée, voilà, plus belle. Et la haute définition étant là, ça risque d'être assez intéressant. Et puis alors, en ce qui concerne les jeux multi-support, donc jeux qui sortent sur Wii, sur Xbox et sur PS3, il y en a. Le premier d'entre eux, c'est Iron Man 2. Bien entendu, le film, je crois, sort cette semaine. Et il y a un jeu d'action inspiré du film éponyme qui sort aussi. J'ai pas beaucoup d'infos. Je sais que Sega est l'éditeur du jeu, que c'est Secret Level qui est le développeur. Je sais aussi que le premier épisode d'Iron Man, version jeu vidéo, avait pas fait sensation à l'époque. C'était un bon gros navet.
Oui, je m'étais pas intéressé à ça, mais c'est vrai que dès qu'on entend jeu à licence ou jeu sorti d'un film, etc., la première réaction, c'est toujours bon, ok.
Bah, ce qui se passe,
faut ouais. vraiment attendre d'y jouer pour voir ce que ça donne, quoi.
Bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a pas mal de geeks. Et... Non, c'est vrai d'ailleurs que Iron Man, le film, est vraiment bien. Pour un film consacré aux super-héros, c'est un des meilleurs. Et forcément, la plupart des geeks ou des personnes qui sont fans de super-héros, bah, pouvaient pas forcément passer à côté. Donc, il a quand même eu son succès, Iron Man, le jeu vidéo, mais il a déçu beaucoup de gens. Donc,
voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les fans l'achètent parce que c'est la licence qu'ils connaissent, qu'ils aiment, et un peu trop souvent, il va y avoir déception, quoi.
Ouais.
En plus, la licence, on va dire, passe deux fois la moulinette, c'est-à-dire qu'originellement c'est un comics, puis c'est adapté en film, alors des gens se disent oulala, qu'est-ce qu'ils vont faire, et alors quand le film est adapté en jeu vidéo, là c'est levé de bois vert.
Et je crois que les reproches qui avaient été faits au premier épisode, c'était que notamment que le personnage d'Iron Man, l'univers, le background, au-delà du film, hein, puisqu'il y a quand même aussi le comics qui est quand même derrière, il y avait un univers quand même qui aurait permis de faire un jeu de très grande envergure, avec et je crois que c'était passé vraiment à côté, quoi. C'était enfin bon.
Mais je crois qu'avec tout ce qu'on peut puiser dans les comics, de toute manière, il y a toujours moyen de faire des jeux excellents, quoi. Seulement souvent les éditeurs ou les créateurs de jeux vont céder à la facilité, quoi. On a la licence, pourquoi s'embêter à faire un bon jeu?
Oui, sauf qu'il y a quand même de très bons jeux inspirés de comics ou de super-héros.
Après,
comme...
ce n'est pas une généralité, il y en a.
Voilà, voilà, tout à fait, voilà. Mais justement, la barre est mise assez haut avec des jeux comme Batman Arkham Asylum notamment, ou même Wolverine, enfin le jeu qui était dont j'ai oublié le titre aussi. Voilà, j'ai des petits trous de mémoire aujourd'hui. Je me manque et j'ai aussi quelques neurones en moins. Les vacances m'ont
pas
réussi.
Je saurais pas t'aider, j'avoue que moi
je suis un peu
du genre dinosaure dans les jeux vidéo. Les derniers trucs sortis, je ne suis pas tout ça dans le détail, donc
c'est pas grave.
Le
et
film,
donc
c'était Wolverine Chronicles, donc est-ce que c'est le nom du jeu irait avec? On va passer pour des incultes là.
Non, mais on peut passer tout simplement le sujet, comme ça au moins on s'enfoncera pas trop. Dernier jeu donc qui sort sur PS3, Xbox et sur Wii, c'est bien entendu le dernier Coupe du Monde de la FIFA Afrique du Sud 2010. Voilà, pour tous ceux qui aiment la licence FIFA, qui ont envie de jouer avec de nouvelles équipes et de nouveaux stades, puisqu'on retrouve 199 sélections nationales qui ont pris donc part aux qualifications, et les 10 stades officiels de la compétition, voilà. Bah, si vous aimez le foot et FIFA, vous savez que ça sort cette semaine sur PS3 et Xbox, par contre, et c'est, je crois, la grosse sortie de la fin du mois d'avril, Super Street Fighter 4 arrive enfin, et justement, je crois que là, Aymeric, t'auras beaucoup plus de choses à nous raconter.
Je peux peut-être un peu plus facilement intervenir.
À mon avis, oui, je crois que c'est plus ton domaine. Alors, on s'inquiétait, hein, on se disait, ouais, ça va être juste une petite mise à jour, ça va être vendu au prix fort, mon dieu, mais quelle horreur. En fait, pas du tout, c'est vraiment une très belle mise à jour du premier Street Fighter 4, à un prix, pas dérisoire, mais un prix vraiment léger, puisqu'il est dispo à 40€, si je me trompe pas.
Ouais, alors... c'est difficile de tomber en dessous, pour un jeu qu'on trouve en rayon sur Next Gen, je crois pas qu'il y en ait eu à des prix inférieurs à 40€. Ouais,
c'est tout à fait vrai. En sachant malgré tout que le jeu sort à peine un an après le premier. Mmh. Donc c'est vrai.
Ça, c'est surprenant. Autant c'est vraiment une sortie rapprochée. Autant les différents ersatz qu'il y a pu y avoir des Street Fighter en arcade sortaient pas forcément tous les ans. Enfin, ils se donnaient le temps de peaufiner les versions d'une fois sur l'autre. Et là, ça pouvait sembler un peu précipité. C'est pour ça que le jeu entre guillemets inquiété pas mal de monde aussi, mais au final ouais, bien.
Voilà, ça nous fait penser, enfin nous, dans un autre style, à Left 4 Dead 2, qui est sorti à peine un an après le premier, et on s'était dit pareil, mais est-ce que c'est pas une simple mise à jour qu'on va nous vendre au prix fort? À se demander d'ailleurs s'il vaudrait pas mieux attendre maintenant avant d'acheter ces jeux, parce que je crois que maintenant avec cette nouvelle version, vous allez le voir, Street Fighter 4 va plus être joué, quoi, à mon avis, il va remplacer l'ancien, complètement.
Ah oui, c'est clair et net, il y a quasiment aucun intérêt à jouer Street Fighter 4, à la limite, le seul intérêt qui pouvait rester pour les gros gamers, c'était le fait que, au Japon en particulier, le berceau des jeux de combat, le jeu n'était pas annoncé en arcade, il allait sortir que sur console, ce qui voulait dire que les top players japonais, en gros, ils l'auraient pas vu passer, quoi, ils auraient pas joué à Super Street Fighter 4. puisque eux ne jouent que sur arcade.
Tu es en train de me dire que Super Street Fighter 4 ne va pas être adapté en arcade?
Ah si, justement, finalement, il a été annoncé, Capcom a annoncé sur le tard qu'ils allaient en faire une version arcade, c'est le contre-pied total de ce qui se fait d'habitude avec les jeux de combat, savoir un jeu sort en arcade, il passe en lock test avant de sortir définitivement, c'est-à-dire les joueurs testent le jeu, disent à Capcom ça, ceci, ça va pas, on ajuste comme ça. Le jeu sort en arcade et un an après, à peu près, le jeu sort sur console. Et là, c'est l'inverse total qui se fait, quoi. Ce qui a inquiété pas mal les joueurs aussi, parce que jeu qui ne passe pas par un lock test égale jeu pas complètement abouti, quoi. Il n'a pas été testé par des joueurs, on ne sait pas trop, il y aura peut-être des choses déséquilibrées.
Toi qui t'y connais certainement mieux que moi dans ce domaine de l'arcade, c'est si compliqué que ça de transposer, adapter par exemple Super Street Fighter 4 en arcade, ça me semble pas être particulièrement difficile. Ouais, ici, il y a peut-être tout un parc de bornes à changer à ce moment-là aussi.
Alors attends, tu veux dire sein de l'arcade passer de Street 4 à Super Street 4
quels étaient les freins pour que Capcom ne mette pas en place des bandes d'arcade Super Street Fighter 4 finalement ils le font,
mais c'est pas du tout une difficulté technique, parce que si un jeu est viable commercialement, ils sortent le système qui va avec, d'autant plus que là les systèmes sur lesquels tournent les Street 4 c'est un hardware très proche du PC, le jeu tient sur un disque dur, donc il n'y a rien de plus simple que de le changer. Non, c'est tout simplement que le public, la clientèle arcade est bien inférieure à la clientèle console, donc c'est tout simplement pas peu viable commercialement. Mais il faut croire que malgré tout, ils se sont dit, bon, quand même, ça crée une certaine émulation, le monde de l'arcade, et il y a pas mal de joueurs, donc ils le font. Mais c'est principalement pour le Japon, les États-Unis, en Europe, c'est mort. Il y a à tout casser peut-être 20-30 bornes d'arcade Street Fighter 4 en Europe à l'heure actuelle.
Pas beaucoup plus, je pense, effectivement. Pour que les gens comprennent bien pourquoi ils vont devoir mettre leur Street Fighter 4 soit à la poubelle, soit au fond du placard, c'est que celui-ci va proposer 10 nouveaux combattants en plus. Donc 8 qui débarquent, je crois, de Street Fighter 3 et qu'on connaît déjà, et 2 vrais nouveaux persos qui s'appellent Akan et Yuri.
C'est ça, voilà. Akan et Yuri. En fait, les autres débarquent pas tous de Street Fighter 3. Il y a 3 persos de Street Fighter 3. Qui sont Makoto, Dudley, Ibuki, 3 persos de Street Fighter 03 ou Street Fighter Alpha 3 tel qu'on l'a connu chez nous, qui sont donc Cody, Guy et là j'ai un trou, mais il y en a 3 de chez Alpha 3, Guy, Cody, et ça me reviendra, bref, et 2 persos, les 2 derniers qui n'avaient pas été adaptés de Super Street Fighter 2 X, le dernier épisodes des Street Fighter 2, qui sont donc T-Hawk et DJ, voilà.
Alors cette multiplicité comme ça des persos, ça va ravir les joueurs lambda qui vont dire ouais, il y a encore plus de contenu, il y a encore plus de persos incarnés. Est-ce que pour les puristes, moi je sais que Ken Borgard nous avait expliqué que pour lui, il aimait pas trop les jeux où il y avait trop de persos parce que il faut apprendre à tous les connaître, donc 10 nouveaux combattants à apprendre et à appréhender ensuite, ça risque de compliquer un peu les choses pour les personnes qui vont un peu plus loin que simplement faire une partie en passant et qui s'adonnent vraiment au jeu. On arrive à combien de persos en tout d'ailleurs? Tiens, j'ai pas fait le calcul, ça doit
c'est
faire
une
22
bonne question. Je sais même plus le nombre exact qu'il y avait auparavant, il y en avait 12 dans la première version arcade, il devait y en avoir une vingtaine, doit monter aux alentours de 30 là avec les boss,
donc ça fait quand même beaucoup de joueurs à incarner,
et
donc
effectivement ça fait beaucoup, et surtout pour un Street Fighter où on est habitué à rarement plus de 15-20 personnages maximum.
Si, je crois bien que ce qui faisait justement un des attraits, un peu le succès aussi de Street Fighter 2, qui était encore une des références, c'était le fait d'avoir très peu de persos et qu'on pouvait vraiment les connaître à fond, 6 ou 8 personnages.
Exactement, qui étaient bien différents et donc le but c'est de les apprendre à fond pour... Et d'une, c'est sympa de savoir jouer avec tous les persos, mais ce que voulait dire Ken Bogard, je pense, c'est dur de les apprendre, c'est-à-dire d'apprendre à jouer contre eux. Admettons, si moi je joue uniquement Ryu Street Fighter, si je veux être efficace et bon, il faut que je sache jouer contre les autres personnages,
il faut aussi connaître ses adversaires pour savoir comment, à quoi s'attendre.
Et là,
contre
30, ça fait plus de boulot,
Ça fait plus de boulot. Et puis l'autre inquiétude, c'est de se dire 30 personnages, est-ce qu'il va pas y avoir des ersatz d'autres personnages? Donc c'est le même, il y a que le look qui change, mais je crois pas. Je crois que Capcom
ils ont pas mal diversifié. Non, le risque sur le nombre de personnages, c'est de se dire c'est bien, on a un paquet de personnages, mais est-ce qu'ils ont été vraiment peaufinés? Est-ce qu'ils ont été bien équilibrés tous? C'est facile de rajouter plein de personnages à un jeu de combat, mais il faut que tous ces personnages
je crois savoir justement que là ils ont fait un bel effort à ce niveau-là et qu'ils ont aussi rééquilibré justement les différences entre les persos. Il y avait quelques petits, donc ça c'est un petit plus indéniable. Autre chose qui a été rajoutée dans cette version, c'est le choix en début de partie, en début de match, entre 2 ultra combos. Tu peux peut-être nous en parler un peu, parce que je crois que Capcom nous a envoyé quelques versions du jeu. Je crois que tu as pu l'essayer, toi.
Oui complètement, Capcom nous a envoyé des versions du jeu aussi à 3 combos pour le présenter, les essayé. Et effectivement, ça c'est la grosse nouveauté, c'est un système qu'on avait en fait connu dans les Street que dans Street Fighter 3. Dans tous les Street Fighter 3, en fait, on pouvait choisir une super parmi trois, en fait, pour chaque personnage. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Ils remettent ça au goût du jour dans Super Street 4. Alors, c'est intéressant parce que ça rajoute un coût supplémentaire et pas des moindres à tous les persos du cast de base qui étaient déjà dans Street 4. Donc, ça les modifie fondamentalement. Et ça amène un côté stratégique au match, à savoir, deux personnages qui jouent Ryu, par exemple, vont s'affronter, contre n'importe quel personnage du jeu, il va falloir prendre l'ultra adapté. On va pas choisir la même super, c'était le cas dans Street 3. Si je joue Ryu, peut-être que contre Sagat, je vais prendre le Shinku Hadoken, donc la super boule de feu, et contre tel autre perso, je vais plutôt prendre le Dragon Punch, parce qu'il est plus valable. Donc ça amène un aspect stratégique, c'est très intéressant.
Donc un Super Street Fighter vraiment plus, hein. Voilà. Est-ce que ça va rendre le jeu moins accessible, plus compliqué à jouer? Est-ce qu'il va pas y avoir un petit retour? Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont bien fait les choses.
Je pense pas, parce qu'ils l'ont pas, ça complique pas énormément le jeu. Je veux dire, le casual gamer qui essaye le jeu, bon, il va prendre une des ultra, mais ça n'amène pas un aspect technique insurmontable.
Qu'en plus, apparemment, c'est légèrement plus beau, c'est légèrement mieux techniquement.
Bon. Oui, ouais, les stages. Alors,
ça se ressent, ça, vraiment?
Ils ont rajouté des couleurs aux personnages, en fait, avec le côté léché, un peu, avec comme des traînées d'encre, en fait, autour des personnages.
Ouais.
Qui est pas mal. Les nouveaux stages sont vraiment jolis. Je trouve qu'ils sont plus travaillés que les anciens. Les 5 nouveaux stages là sont pas mal. Après, c'est le même moteur 3D. Donc les menus, les habillages de menus sont très réussis et esthétiquement et fonctionnellement parlant, c'est voilà.
Et très différent de ce qu'on avait avant.
Pas très différent. Non, voilà. Okay. Globalement, mais c'est plus fonctionnel. Alors. Pour se promener dans les menus et quand on joue en ligne, ils ont fait en sorte qu'il y ait moins de temps d'attente entre les matchs, qu'on puisse jouer à plusieurs, etc.
Voilà, enfin, justement.
Ils ont peaufiné, en gros, tout ce qui manquait.
Il y a une petite nouveauté intéressante. En ligne, on peut être jusqu'à 8 joueurs maintenant réunis. Et on peut aussi maintenant, je crois, enregistrer et visionner ces matchs.
Oui, ça c'est un point excellent. C'est-à-dire qu'on peut faire en gros une session entre amis, comme si on était tous à la maison et on se passe le stick. Et ben voilà, c'est exactement ça.
Pour les personnes qui sont plus techniciennes ou qui font du versus fighting ou qui participent, comme on va le voir tout à l'heure, à des championnats, je pense que c'est une option qui peut être intéressante pour revoir ces matchs. Éventuellement, pourquoi pas s'amuser à les commenter. Ça peut être une très bonne chose.
Oui, et l'option de revoir ces matchs. Ouais, alors j'ai pas testé ça, mais effectivement, apparemment, il y a un bouton, enfin une fonction à n'importe quel moment du jeu en ligne, on peut enregistrer son match ou un match qu'on est en train de regarder. Et ouais, ça c'est génial, c'est un gros plus.
En tout cas, Super Street Fighter 4, pardon, ça sort donc cette semaine sur PS3 et sur Xbox 360 aux alentours de 40€. Et ben, on en reparlera certainement sur Game Radio très prochainement. En tout cas, Aymeric, merci d'avoir donné plus que ton opinion, hein, tous ces petits détails en plus, puisque toi tu as pu y jouer. Et heureusement que tu étais là. Voilà.
De rien.
Et pourquoi est-ce que tu es là justement pour nous parler du Stunfest? On va donc passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission. On va parler du Stunfest X. J'ai un petit peu plus tendance, moi, à dire Stunfest 2010. Justement, je crois que
c'est logique, c'est dans la suite des précédents. Ouais, les gens étaient habitués à dire 2007, 2008, 2009, mais on a voulu jouer sur les chiffres un peu avec l'édition 2010 là.
Avec un joli X rouge et sanglant qui apparaît juste après le Stunfest. En tout cas, le logo est comme ça. Stun, ça veut dire assommant, assourdissant, si je me trompe pas.
C'est ça, tiré directement des jeux de combat où c'est le mot utilisé quand on fait toute une série de coups sur un perso, on le met stun. Étourdi dans les pommes, quoi, dans les vapes.
Voilà, donc c'est le festival assommant.
Le festival de l'étourdissement, pas seulement autour des jeux de combat, mais autour de. Voilà. On essaye d'en mettre plein les yeux de tous les genres, et ouais. En plus, avec le côté ouverture toute la nuit, alors c'est plus complètement le cas cette année, mais c'est comme jusqu'à 5h du matin, ce qui fait. Généralement, les gens qui ressortent du Stunfest, le terme est péjoratif, mais je vais l'utiliser quand même. Il y a un côté lavage de cerveau qu'on rentre et
de la machine à laver.
Des vidéos dans tous les sens et voilà, on s'en prend plein les mirettes, quoi.
On va essayer de comprendre pourquoi justement. Cette édition, donc 2010, a lieu du 22 au 23 mai prochain. C'est à Rennes et ça se passe toujours à Rennes depuis maintenant. Vous allez voir 6 ans. Cette année, c'est l'espace culturel du Triangle qui vous accueille.
C'est ça.
Si je dis une bêtise, tu m'arrêtes tout de suite. Hein. Ça dure donc sur deux jours. Pendant ces deux journées, Rennes va donc vivre. Hein, au rythme endiablé, je crois, donc des jeux d'arcade, des jeux musicaux et du versus fighting. C'est vraiment les trois éléments issus.
Alors c'est les trois éléments, c'est-à-dire que c'est un peu difficile de le découper comme ça parce que arcade, ça regroupe plein de genres de jeux. Donc effectivement, il y aura pas mal de bornes d'arcade, mais de tout type, de tout poil, avec tout genre de jeux dedans. Versus Fighting, les jeux de combat, clairement, avec le côté compétition. Jeux musicaux, il y en a toujours eu. Et là, cette année, on met l'accent sur deux points supplémentaires au sein de l'arcade. C'est les puzzle games et les shoot 'em up. Donc puzzle games, je pense que tout le monde connaît, Tetris, Puzzle Bobble, Puyo Puyo. Il y a des gros joueurs de Tetris qui vont se déplacer au Stunfest.
Alors quand savoir une chose, c'est que Tetris n'est pas qu'un jeu pour jouer aux toilettes et que le jeu Puyo Puyo sont pas que des jeux pour les filles.
Tout à fait, il y a de la compétition là-dessus. On parlait de Ken Bogart tout à l'heure, qui est un joueur et qui a commenté auparavant des tournois Puyo Puyo au Japon. Et côté Tetris, c'est pareil, il y a des vraies machines à jouer, on va dire, des gens qui sont des joueurs qui jouent à une vitesse affolante à Tetris, quoi. On aura apparemment certains de ces oiseaux-là au Stunfest.
On va disséquer un peu plus le Stunfest cette année. Enfin, ce que vous nous avez préparé un peu plus tard. Là, je te propose d'abord qu'on revienne un petit peu sur la genèse du Stunfest, ce qui se passe maintenant depuis 6 ans. Ça a commencé en 2004, donc c'est pas tout jeune finalement.
Et
c'est
2005 en fait, ouais.
D'accord.
C'est la sixième édition en 2010, mais la première était en mai 2005. Quoi.
D'accord.
2005.
Et alors, c'est donc l'association 3 Hit Combo qui organise ça. Est-ce que l'association existait déjà dès le départ ou elle s'est montée un peu plus tard? Comment vous avez. Alors, peut-être qu'on peut revenir, je sais pas trop comment prendre le truc. Hein,
je vais raconter un peu tout ça en même temps. Alors, l'asso existait, mais ne porte pas le même nom en fait. On s'est rassemblé entre joueurs qui avaient le même centre d'intérêt, à savoir uniquement les jeux de combat, en 2002-2003 sur Rennes. En gros, voilà. On aime bien les jeux de combat, allez, on va se réunir et puis jouer ensemble.
Et vous étiez tous joueurs arcade, vous alliez dans des salles d'arcade, c'était votre.
Alors, il restait encore à cette époque-là, je sais plus à quelle époque elle a fermé, 2001-2002, la dernière salle d'arcade à Rennes.
Il y en a plus
Top
depuis
Games, qui a fermé peu de temps après.
D'accord, il n'y a plus de salle d'arcade à Rennes, depuis il n'y a plus.
Non, il n'y en a plus, il y en a d'ailleurs quasiment
comme
plus en France.
Comme dans beaucoup de villes de France, oui.
Voilà, tout à fait. Donc, on était tous des joueurs arcade, c'est-à-dire qui avions joué sur l'arcade auparavant, mais bah voilà, le hic, c'est que les jeux de combat continuaient à exister, à vivre, quoi, à sortir commercialement, et il n'y avait plus de lieu pour se rencontrer, le online n'existait pas encore, tout du moins dans de mauvaises conditions, donc seule solution pour s'adonner au jeu de baston, parce que le seul plaisir, c'est pas contre l'ordinateur, c'est de jouer contre d'autres, et à plus forte raison dans les compétitions, c'était de trouver un moyen de se rencontrer.
Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? On
donc,
va revenir en 2005.
Dans le premier temps, excuse-moi, je te coupe la parole, mais oui, je vais continuer.
Ah, vas-y.
En 2000, à l'occasion du premier Stunfest, en 2005, on s'est regroupé en asso sous le nom CTPL West. CTPL, peut-être que certains connaissent, c'est le forum de Console League. C'était une asso parisienne qui organisait des tournois. Et donc, au tout début, en fait, on s'est déclaré un peu comme la branche ouest bretonne, en tout cas, de Console League, de CTPL.
D'accord.
Et c'est sous cette couleur-là qu'est apparu le premier Stunfest. Et ensuite, dès l'édition suivante, dès 2006, on est devenu 3 Hit Combo.
Okay.
On a pris notre autonomie, entre guillemets. Quoi.
En tout cas, ce qui est certain, et moi je tiens à le dire, c'est que vous ne surfez pas sur une mode. On le voit aujourd'hui, le rétro gaming, la 2D, les jeux de baston. Bon, je sais pas si c'est étrange ou pas, on pourrait faire un débat là-dessus. En tout cas, c'est à la mode. Ça marche très bien même. Il y a de plus en plus d'événements qui récupèrent le rétro gaming. Vous, c'est pas du tout une mode, puisque on le voit, hein, 2004-2005, vous avez commencé à créer quelque chose. Hein. D'ailleurs, on le sent, c'est un vrai festival créé par des passionnés pour des passionnés au départ.
C'est ça.
J'imagine. Votre première édition. Qu'est-ce qu'on y trouvait? Qu'on fasse bien la différence, est-ce que vous proposez?
Ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que c'est souvent la genèse de pas mal de festivals, je pense, qui ont commencé entre copains. Si on prend un autre exemple breton d'un énorme festival que beaucoup doivent connaître, les Vieilles Charrues, ça a commencé festival entre potes et la scène, c'était une remorque. On sait ce que c'est aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de personnes. On n'est pas rendu là encore avec le Stunfest, mais on a démarré comme ça, c'est-à-dire que c'était dans une maison de quartier à Rennes, une maison de quartier La Touche, qui nous accueillait. Il y avait une petite salle de 200 mètres carrés à peine, moins que ça. Et on voulait juste faire un tournoi un peu plus gros que d'habitude sur des jeux de combat. Il y avait un petit peu de jeux musicaux, mais en à côté. Et on a dû avoir 70 personnes peut-être.
D'accord.
Mais on commençait déjà à faire des trucs assez fous. Les jeux de combat, Street Fighter, etc. Ok, ça c'était une chose. Et à la première édition du Stunfest, on a fait, à l'époque, il y avait les 24 heures du Mans sur Dreamcast.
Oui, excellent jeu. Un des plus beaux jeux de caisse de la Dreamcast.
Carrément, qui était excellent. Et on a fait les 24 heures du Mans en live. Vu que le Stunfest, c'était tout le week-end non-stop.
J'avais essayé chez moi, j'ai pas réussi à tenir.
Il y avait trois équipes, je crois, qui ont participé, de deux pilotes qui avaient démarré le samedi à 16h pour finir le dimanche à 16h non-stop. Voilà le genre de truc un peu décalé qu'on a commencé à faire, inhabituel. Et ensuite, je vais être assez bref, mais ça a évolué l'année suivante. En 2006, on était encore à la maison de quartier, mais là, il n'y avait plus de place. C'était noir de monde. On avait commencé à ramener des bornes d'arcade. C'était la première fois qu'un événement proposait des bornes au public. On avait une petite dizaine de machines.
Et puis, c'était très local. Je veux dire, au niveau de la communication, vous alliez pas plus loin que Rennes et les alentours, j'imagine.
C'est ça. En 2005, il y avait eu quelques Parisiens à venir, qu'on connaissait via les forums, qui avaient osé se déplacer, qui avaient dit, mais c'est génial et tout, ils sont fous à Rennes, ça arrête pas, c'est toute la nuit, c'est non-stop, c'est super. Et donc, ça a commencé à buzzer un peu, on va dire. 2006, ils ont été un peu plus à venir, on a dû avoir 300 personnes. Et là, d'un peu toute la France, mais une fois de plus que les motivés qui avaient osé se déplacer jusqu'à Rennes. Et là, ils ont tous halluciné. Quoi, il y avait des bornes d'arcade, il y avait des postes dans tous les sens, ça s'arrête pas. C'était complètement le beans quand même. On a eu des retards complètement fous sur les tournois parce qu'on n'avait pas le temps. Il y avait trop de monde, on pensait pas qu'il y aurait autant. Et à partir de là, on a doublé notre fréquentation tous les ans. 2007, on a changé de lieu. On s'est retrouvé dans un parking souterrain d'un espace sportif de la ville de Rennes. Mm-hmm. Il faisait 7 fois 1000 mètres carrés. On a dû avoir, je pense, 600 visiteurs à peu près, donc une fois de plus, un fois deux. Toujours plus de bornes, toujours plus de postes pour les tournois, de plus en plus de rétro gaming, de jeux musicaux à côté. Et une fois de plus, les gens sidérés de voir un truc complètement inhabituel, tu vois, un parking souterrain, des bornes d'arcade, du rétro gaming.
Moi, ce que je trouve génial dans votre aventure, dans ce qui se passe autour du Stunfest aussi, c'est que vous avez gardé cette âme-là. Ce côté underground, moi, quand je suis allé sur votre site, que j'ai essayé de faire connaissance avec le festival que je ne connaissais pas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une âme très différente de ce que l'on trouve dans les autres festivals consacrés aux jeux vidéo, entre guillemets. Et là, il y a vraiment une touche qui n'est propre qu'à votre festival. Je sais pas pourquoi. Donc, moi, c'est vraiment assez unique, hein, en France, je crois. Cette couleur, cette ambiance, on sent. Alors, je sais pas si vous cherchez à le conserver, je pense pas, mais c'est, voilà, il y a une vraie identité forte.
Et qui est vraiment intéressante. On cherche à le conserver parce qu'on en est de plus en plus conscient. Maintenant, on se donne beaucoup de liberté dans la prog et c'est vraiment, on fonctionne selon nos envies. Et en fait, tout coule de manière logique. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est naturel. Tu vois, ça commençait avec les jeux de combat. Pourquoi des bornes d'arcade? Parce que les jeux de combat, ça existe sur arcade à la base. Bon, on va mettre des bornes. Il y a des bornes d'arcade. Ah ouais, mais sur les bornes d'arcade, il y a pas que les jeux de combat. Bon, alors on va essayer d'explorer les autres genres qu'il y a dans l'arcade parce qu'on aime tous un peu l'arcade aussi. Et ainsi de suite. Et rétro gaming, on aime ça, mais voilà. Ce qui fait que tout ce qu'on propose, ça n'est pas parce que des gens nous le demandent ou parce que c'est plus valable commercialement de faire ça ou parce qu'un sponsor va nous filer tant si on met sa dernière nouveauté en avant. Non, on se demande qu'est-ce qu'on aime nous, et comme on est pas mal quand même à trouver de combos et dans les assos qui travaillent avec nous, ça c'est assez représentatif de ce que les gens aiment en général dans les jeux vidéo. S'amuser, fun, rencontrer des gens aussi.
On le voit, j'invite les gens à aller, excuse-moi, je te coupe à nouveau, j'invite les gens à aller voir le teaser que vous avez mis en place, il y a peut-être des photos qui traînent à droite à gauche, on voit vraiment une ambiance très différente de ce qu'on voit ailleurs, j'allais dire ça sent la sueur, ça sent
un
pub,
non mais voilà. Clairement affiché.
Même si effectivement maintenant, le parking c'est terminé, le souterrain en tout cas, on a toujours, je trouve, cette âme qui fait presque penser, tu parlais tout à l'heure des vieilles charrues, on pourrait penser au transmusical ou à d'autres événements qui se passent en Bretagne, fait vraiment penser à ça, cette ambiance de festival, peut-être de province, je sais pas. Enfin, en tout cas, il a cette attitude que moi qui me plaît beaucoup en tout cas.
Mais c'est le côté festival. C'est vrai que je pense que c'est assez représentatif. Si on réfléchit un peu, en France aujourd'hui, on a des salons de jeux vidéo, on a des conventions de Japanimation avec du jeu vidéo dedans, mais festival de jeux vidéo, c'est le terme est bien représentatif.
Que ce soit pas une vitrine commerciale de produits qui vont sortir dans quelques mois,
c'est ça. Pas ça. On se dit que la vitrine commerciale, les gens, ils l'ont s'ils vont au supermarché ou s'ils vont dans des salons pour voir les dernières nouveautés.
Oui, ou en allumant leur console de jeu, de toute façon, maintenant, aujourd'hui.
La vitrine, ils l'ont en plus constamment. Avec le online et toutes les démos qui pleuvent ici et là, quoi.
Tout à fait. Donc, on va peut-être s'intéresser maintenant à cette édition. Les moyens sont plus les mêmes quand même, j'imagine. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Quelques mots peut-être sur l'équipe. Est-ce que donc festival qui a un peu plus d'envergure, est-ce que vous travaillez différemment? Est-ce que justement c'est votre boulot ou est-ce que vous êtes encore des... Je sais pas si on peut en parler, mais j'imagine que oui.
Ah oui, on peut tout à fait en parler. C'est 100% bénévole, asso loi 1901, à but non lucratif, et personne n'est rémunéré dans l'asso pour faire ce qu'on... Pour le Stunfest et pour ce qu'on fait le reste de l'année d'ailleurs, on fait des tournois réguliers, des événements. Alors justement, ça reste 100% associatif.
Tiens, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler de l'équipe, justement, parce que c'est souvent les personnes qu'on oublie, hein. On vient au festival, on s'amuse, on s'éclate, et puis il y a plein de gens qui travaillent pendant parfois un an pour préparer ce genre d'événement. Parle-nous un petit peu des personnes qui gravitent autour de toi et qui mettent en place justement cet événement-là.
Ouais, alors effectivement, au fil des ans, il a fallu se structurer un peu plus au sein de l'asso. Alors attention, ça reste toujours dans une... On n'a pas de bureau, on n'a même pas de local associatif. On est hébergé par une maison de quartier à Rennes où on fait des événements, mais ça ressemble en rien à une boîte si on veut. Donc on a un bureau classique, hein, président, secrétaire, trésorier, etc. Mais ça, je vais dire, peu importe sur les rôles joués. Le Stunfest aujourd'hui, en 2009, c'était déjà plus ou moins le cas, mais là, on commence de plus en plus à répartir les rôles. Une personne pour coordonner tout ça, donc c'est effectivement moi. Ensuite, il y a responsable technique, il y a trois personnes qui travaillent à la communication uniquement, communication, relations presse, une personne qui s'occupe de tout ce qui est... je vais utiliser des grands mots, attention, mais direction artistique, réalisation des affiches, ouais. Plaquettes, flyers divers, etc. Un webmaster... et des gens qui sont uniquement en charge des tournois. Ils sont deux, trois, à s'occuper uniquement de la mise en place des tournois, des règlements, etc.
Et ce sont tous, avant tout, des gamers, des passionnés de jeux d'arcade, de jeux de baston.
Sans exception, tous.
Et ça, c'est assez énorme quand même.
C'est ce qui donne le cachet, c'est-à-dire que le moindre truc qu'on produit dans le cadre de l'événement, les gens qui parlent de l'événement du côté com, la personne qui fait le site internet, sont tous... on tous baigné dans les jeux vidéo en fait, donc ils savent de quoi ils parlent et on s'entend quoi.
Ouais, vous avez créé ce que vous auriez aimé trouver vous-même en tant que gamer.
C'est ça, complètement.
Alors,
L'aspect pas négligeable, je les cite parce que tu dis, faut pas oublier les équipes derrière le Stunfest, derrière un événement en tout cas. Derrière le Stunfest, il y a pas que 3 Hit Combo. C'est d'autres associations qui viennent nous aider en fait, nous épauler. Et qui mettent en place l'événement. Je vais en citer rapidement. Il y a Gnus Corporation qui fait.
Mais on va avoir, voilà, justement. Mais attends, on va justement parler un petit peu de tout ce qu'on va pouvoir trouver au Stunfest cette année. Donc ça va peut-être être l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur tous vos partenaires, en tout cas les personnes, les assos qui vous aident à mettre en place tout ça.
Oui, complètement.
On va faire ça comme ça.
C'est juste pour dire que nous tout seuls, 3 Hit Combo, on pourrait pas faire ça. On n'a pas assez de matériel et pas assez de bénévoles.
D'accord. Oui, d'autant plus que, alors, faut le dire, hein, cette année, ça va s'étendre sur plus de 2000 mètres carrés.
C'est ça.
Donc il faut les remplir. J'ai juste rappelé, donner quelques chiffres. Hein. En 2009, l'édition du Stunfest a rassemblé, je crois, 2000 personnes.
Alors oui, le chiffre est délicat de dire. Je vais rester modeste, entre 1500 et 2000, parce qu'on avait prévu 1000 bracelets, tu vois, d'entrée, et ils ont tous été écoulés le samedi en fin de journée. Donc les gens ont continué à rentrer et on n'avait plus de moyens de comptage précis.
Et donc, sur ces 2000-1500 personnes, il y avait à peu près 500 compétiteurs, ce qui est assez énorme en France, réussir à réunir 500 personnes inscrites dans un tournoi de jeux vidéo. Mais en tout cas, c'est rare.
C'est rare, ouais, complètement. Il y a peu d'événements qui fédèrent autant de joueurs au même moment, et surtout, des joueurs, c'est pas 500 français, il devait y avoir au moins 100 à 150, une centaine d'étrangers l'année dernière, venus de toute l'Europe, voire de plus loin, américains, japonais. Il y avait un Guadeloupéen qui a gagné un tournoi d'ailleurs, enfin, assez impressionnant.
Alors, on va parler donc maintenant de cette édition 2010 avec ses 2000 mètres carrés d'animation. Bien entendu, on va commencer par les compétitions. C'est quand même, je crois, le nerf de ce Stunfest. Il y a pas mal de choses. J'étais assez impressionné parce qu'il n'y a pas que du jeu de baston. Mais tu l'as dit tout à l'heure, hein. Maintenant, il y a donc une compétition de pop and music. Il y a, si je me trompe pas, tu m'arrêtes, hein, si je dis des bêtises.
Vas-y.
Je crois même qu'il y a certains shoot'em up qui vont être mis en avant. Bon, on va commencer par les jeux de baston. Bien entendu, du Street Fighter 4, incontournable aujourd'hui.
Voilà. Ce sera le premier tournoi de Super Street Fighter 4 en France. Je ne pense pas dire de bêtises. Il y aura peut-être des petits tournois ici et là, plus des tournois promotionnels, quoi. Mais premier tournoi sérieux, en tout cas, qui vont permettre de fédérer tous les joueurs français et étrangers.
Est-ce que vous allez utiliser Super Street Fighter ?
Ah oui, complètement. Oui. J'ai dit Street Fighter 4 tout court. Oui, c'est Super Street Fighter 4.
Non. Voilà. Mais moi, je me posais vraiment cette question. Il sort à peine, donc peut-être que les gens ont pas encore eu le temps vraiment de jouer au jeu. Est-ce que c'est pas trop tôt pour l'utiliser en championnat ?
Ça a été la question. On a débattu le truc avant. On s'est dit, allez, on reste sur Street 4, on met le Super Street. On a longuement hésité. En plus, à l'époque, il y avait le doute de est-ce que Super Street Fighter 4 doit être un bon jeu ? Est-ce qu'il va être réussi ? Est-ce que les gens vont y jouer ? Quand on a vu l'attente qu'il y avait de la part des joueurs pour Super Street, le buzz qu'il y avait autour du jeu sur internet, les vidéos qui se multipliaient, on se disait quand même c'est sur la bonne voie, le jeu est réussi, etc. On a pris la décision, il fallait la prendre assez tôt, de le faire sur Super Street. Donc oui, on le fait. Et oui, les gens n'auront qu'un tout petit mois, même pas 3 semaines.
Voilà, pour, donc, s'entraîner. Donc faut acheter Super Street Fighter 4 pour pouvoir s'entraîner, participer au tournoi. Du Stunfest, autre jeu. Alors là, ça m'a beaucoup plus surpris. On va rester en 2D d'abord. Donc, BlazBlue, ouais. jeu récent, super jeu, très technique. Ouais. Qui est très hérité de Guilty Gear. D'ailleurs, qui sera jouable lui aussi, je crois, en tournoi.
Oui, alors c'est un tout petit peu particulier. En fait, on accueille la finale de la BlazBlue League, c'est-à-dire une ligue sur le jeu organisée par Trade West, l'éditeur. Des phases de qualif ont eu lieu dans d'autres villes en France et dans d'autres événements auparavant, à Paris, à Cannes, pendant le Festival des Jeux, entre autres. Et nous, on accueille les 8 meilleurs joueurs qui viendront disputer leur finale au Stunfest.
Une petite question, comment ça se passe justement ces finales? Elles vont être faites sur scène? Comment ça...
Tout à fait, il y aura une grande scène assez conséquente avec 2 voire 3 vidéoprojecteurs qui retransmettent et les matchs et la tête des joueurs, etc. Donc tout ça c'est mis en scène, les joueurs sont au milieu de la scène, c'est commenté, le tout est filmé et sera disponible sur Dailymotion le plus rapidement possible.
Voilà, donc ça va être particulièrement spectaculaire à regarder. C'est pas le genre de tournoi qui se passe, on sait pas ce qui se passe, hein, c'est pas là, au contraire, ce sera vraiment
Commenté, donc mis en valeur, et ça c'est très important. Tu as parlé tout à l'heure de, quand on parlait de Super Street, de Ken Bogard, qui a vraiment participé à la démocratisation des jeux de combat, au sens où il s'est mis à commenter les matchs. C'est-à-dire que celui qui n'y connaît rien en jeu de combat, qui regarde que ce soit BlazBlue, Street Fighter, Tekken, et il va pas, on peut difficilement distinguer les différences de niveau entre un débutant et un pro gamer, quoi. Et là où ce que fait Ken Bogard est super, c'est que justement il explique tout ce qui se passe.
Il l'explique et puis il ambiance le jeu, c'est-à-dire qu'il rajoute même ce qui manquerait. Il donne le côté un petit peu plus show au jeu. Et donc il sera sur place.
Il sera sur place, ouais, tout à fait.
Très bien.
Il s'occupe de commenter en particulier Super Street et surtout les jeux Capcom, puisque c'est ce qu'il connaît le mieux, quoi.
Bien entendu, du Street Fighter 2. Un petit peu de KOF, The King of Fighter.
Oui, avec des qualifications pour le Tougeki en plus, au passage.
D'accord. Ah oui, donc Tougeki, vous avez quand même maintenant
de tournoi japonais.
Vous avez quand même maintenant de beaux partenaires, enfin, ou en tout cas des liens avec vous êtes totalement dans le versus fighting, dans le e-sport, ce qui était peut-être pas le cas au début. Vous étiez
Non, évidemment, au début, quand ça a démarré, on était trop peu connus, c'était trop petit pour pouvoir attraper ces poissons-là, on va dire, et puis pour faire des qualifs Tougeki, on accueille des qualifs européennes, c'est difficile, ça a eu lieu par le passé en France et c'était dommage, des qualifs ont eu lieu sur un jeu, Street Fighter 3 par exemple, dans une boutique, l'espace d'une après-midi dans une ville en France, ce qui fait que des gens se déplaçaient d'Angleterre, d'Allemagne pour venir disputer une qualif, donc ils payaient très très cher pour faire un tournoi qui allait durer 1 heure ou 2 et au revoir. Alors que là, on leur offre la possibilité de venir faire leur qualif Tougeki et participer à plein d'autres tournois à côté et de s'éclater, quoi.
Ikigeki, c'est aussi un tournoi qui se passe peut-être au Japon et
Alors, non, il se passe pas au Japon, c'est à consonance japonaise, effectivement, mais non, c'est une association lyonnaise qui organise ça. L'asso s'appelle AH2R. Eux aussi sont sacrément originaux dans ce qu'ils font. Je vais pas avoir beaucoup de temps de parler d'eux, mais en gros, ils s'intéressent au combat virtuel, combat réel. Donc, c'est en même temps un dojo d'arts martiaux et un dojo de jeux vidéo de combat virtuel.
C'est particulièrement intéressant d'avoir fait le lien comme ça entre le virtuel et le réel. Alors là, ce qui m'a le plus surpris dans votre line-up de tournoi, c'était que il y a pas que la 2D. Aujourd'hui encore, les jeux en 3D intéressent les gamers apparemment, puisqu'il y aura du Tekken 6 qui a pourtant pas très bien marché, qui est sorti je crois en novembre l'année dernière, qui a pas eu le succès peut-être qu'il mérite, j'en sais rien. En tout cas, il sera présent au Stunfest et Soul Calibur 4.
Tout à fait, Soul Calibur 4 qui on pourrait dire commence à vieillir un petit peu, ça fait un certain temps qu'il est sorti, mais il y a quand même une communauté de joueurs. En fait, c'est comme tous les jeux de combat. Tekken, que ça marche commercialement ou pas, il y a toujours un noyau dur de joueurs qui achètent le jeu dès qu'il sort et qui va continuer à y jouer tant qu'il n'y a pas une suite. Donc, que ce soit Soul 4 ou Tekken 6, il y a des joueurs qui jouent. Alors effectivement, c'est peut-être pas un énorme succès commercial et les éditeurs doivent se dire ça marche pas, on sait pas. Je les rassure, il y a des joueurs qui ne lâchent pas le morceau et qui sont toujours derrière, quoi. Tout comme il y a toujours des fans qui jouent au Street Fighter 2 qui est sorti en 94.
En sachant qu'un Soul Calibur avec un stick arcade, c'est aussi sympa qu'un Super Street Fighter 4. Enfin, moi je trouve. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent 3D, donc on joue à la manette, on utilise un stick analogique, non?
Ça, c'est délicat, on peut pas empêcher les gens. Il y a eu des gros débats là-dessus dans les communautés jeux de combat. On interdit la manette. Est-ce qu'on autorise les raccourcis? C'est-à-dire les macros appuyés sur un bouton et ça fait comme si on appuyait sur 2 ou 3. La réponse dans l'absolu serait Oui, on interdit ou on évite tout ça, puisque le support originel des jeux de combat, c'est l'arcade, c'est donc un joystick et 3 à 6 boutons. Et s'il faut appuyer sur 3 boutons au même moment, c'est bien qu'il y a une difficulté, une raison. Bon, après, il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, tout le monde joue sur console. On en a parlé tout à l'heure, il y a plus de salle d'arcade, donc il faut s'adapter.
Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui achètent des sticks arcade, beaucoup plus qu'avant.
Oui, complètement, et en particulier avec la sortie de Street 4, une fois de plus, où Mad 4 a sorti des sticks de bonne qualité. C'est enfin un constructeur s'est enfin dit, bon, on va considérer le fait qu'il y a des joueurs qui jouent sérieusement à ça, et on va arrêter de faire des sticks qui sont de la vraie Kaamelott, quoi. La plupart des sticks qui sortaient, c'était ça, quoi. Et ça a marché, quoi.
Ça fait partie de l'engouement.
On se promène dans les tournois maintenant, c'est affolant de voir la proportion de joueurs qui jouent au stick par rapport à il y a quelques années, quoi.
Alors il y a d'autres jeux qui seront jouables en tournoi dans Austinfest. Alors Pop and Music, donc ça, je sais pas, vous allez avoir des bornes ou vous allez utiliser les périphériques adaptés sur
Alors on n'a pas la chance d'avoir de bornes Pop and Music, il y en a une en France d'ailleurs dans la salle de Neo Arcadia à Toulouse là, mais on pourra pas l'avoir ici, donc non, c'est des périphériques externes pour PS2, quoi.
D'accord.
Qui sont très très proches du contrôleur d'une borne, hein, mais bon.
Ouais, il y a même des contrôleurs faits maison, hein, qui sont dans les dimensions, parce qu'en fait voilà, il y a des contrôleurs de petite taille, il y en a des plus gros, et c'est assez impressionnant à voir jouer. Je sais pas du tout quel est le niveau des Français justement en Pop and Music. Tu le sais peut-être.
Depuis quelques années là, c'est un jeu qui a émergé assez tardivement en fait. Dans les jeux musicaux, puisque on a surtout connu les années passées DDR. Je vais simplifier beaucoup, mais c'était ça, quoi. Alors que DDR n'était même pas la base des jeux musicaux, c'était Beatmania. Donc c'est des jeux, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais les quelques-uns qui y jouent, ils vont à fond, et vraiment à fond, et ont un niveau, oui, assez impressionnant, et à Pop and Music et à Beatmania, qui sont des jeux très techniques.
Et c'est superbe à voir jouer, hein. On peut voir des vidéos sur YouTube, de japonais, ouais, souvent, hein, qui, enfin, c'est vraiment des exploits, quoi, de les voir faire. Autre jeu, donc, qui seront jouables, Gunbird, il y a des shoot'em up, pas mal,
oui.
Quelques mots. Comment est-ce qu'on fait une
Gunbird, Gunbird, qui est un shoot qui date un petit peu,
ouais,
mais
je crois qu'il était sorti sur, ça a 10 ans, déjà.
Le temps, ça passe vite, ouais. Et sinon, des shoots beaucoup plus récents. En particulier, on ne peut pas les citer. Cave, des shoots Cave, donc Mushi Mesama, Dodonpachi, qui sont. Alors, ça ne dit peut-être pas grand-chose aux gens, mais Cave est un des principaux éditeurs de shoot'em up, si ce n'est le principal éditeur de shoot aujourd'hui. C'est japonais, c'est presque artisanal ce qu'ils font. Ils font des super shoots, la difficulté bien relevée. Et voilà, on va essayer d'avoir.
Ce qui se passe, c'est que ce sont des jeux qui sortent en arcade au Japon, auxquels on n'a pas forcément accès chez nous. Il faut savoir que ça existe, et je crois qu'on peut plus ou moins les faire tourner sur PC. C'est bien ça?
Alors, pas les derniers Cave. Certains sont émulés, oui, ouais. les plus anciens.
En tout
mais
cas, Dodonpachi, on peut y jouer sur PC, c'est ça?
Oui, hein, oui, ouais. Oui. Dodonpachi, on peut, c'est émulé, mais certains autres ne le sont pas. Ketsubi, par exemple, qui est considéré comme un des meilleurs shoots de Cave, va être adapté sur Xbox prochainement, là. Si je dis pas de bêtises, il sort dans les jours à venir, il est peut-être même sorti. Et c'est une première. Les shoots sont adaptés sur PS, ont été adaptés un peu sur PS2 maintenant sur Xbox, mais clairement ne sortent pas du Japon. Sortie PAL, européenne, on n'en voit pas. Donc des fois, avec un peu de chance, le jeu est multizone. C'était le cas pour certains jeux de chez Cave, mais ils viennent d'annoncer que non, leur jeu ne serait plus dézoné. Et pour Ketsui, le seul moyen d'y jouer, c'est d'avoir une Xbox japonaise. Dur, dur.
Ouais, tout à fait. Alors, bien entendu, pour pouvoir participer à tous ces tournois, il faut s'inscrire. Alors, pour le moment, c'est ce que je te disais un petit peu avant qu'on enregistre cette émission. Il n'y a pas beaucoup de monde d'inscrits. Tu m'avais dit que les gens attendaient un petit peu la dernière minute pour s'inscrire. Alors, je pense qu'il faut passer le message. Inscrivez-vous dès à présent. Si vous comptez venir au Stunfest et participer au championnat, inscrivez-vous dès maintenant, parce que pour vous, c'est plus compliqué au dernier moment de mettre en place les choses.
Exactement. Ouais, si les gens sont pas préinscrits, on n'a pas de visibilité sur le nombre de joueurs. Donc sur Street 4, on avait 200 joueurs l'année dernière. On s'attend à au moins autant, donc on prévoit en conséquence. Mais des fois, on a des surprises. On met un jeu en tournoi, on dit oh tiens, sur internet il y a eu 10 préinscriptions, c'est pas terrible, et le jour de l'événement il y en a 50, et ça pose tout de suite des problèmes, quoi. Donc on peut pas obliger les gens à se préinscrire, à prendre leur place avant, si ce n'est de leur dire que ils auront 10% de réduc.
Ah oui.
Et ça c'est pas négligeable,
c'est conseillé, donc inscrivez-vous à l'avance. On a donc fait un petit peu le tour, je crois, rapidement bien entendu, de l'aspect compétition du Stunfest. Bien entendu, tu nous l'as dit, donc jeu d'arcade, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous avez ramené des bornes, je crois qu'il y a certaines bornes assez exceptionnelles.
Il y a des bornes qui sortent vraiment du lot, oui. Alors, il y a toute la partie combat où c'est des bornes classiques, de joystick, des boutons, et après des bornes qui plus apparentées à des simulateurs, jeux de voiture, par exemple une borne Samba de Amigo, borne d'arcade Samba de Amigo, ça se croise pas tous les coins de rue.
Non, c'est vrai.
On va commencer à voir un peu de jeu de tir, là, on devrait avoir un Point Blank, un vieux jeu d'arcade de tir orienté assez fun, quoi, avec un aspect assez cartoon. Sinon, que citer, il y a un jeu de ski qui était présent l'année dernière qu'on va remettre, c'est Sega Ski Super G, là, qui est, voilà. Donc là c'est pas un joystick et des manettes, c'est on a des bâtons de ski entre les mains, on est posé sur des vrais faux skis mécaniques et c'est parti quoi.
Ça c'est des genres de choses qu'on croisait dans toutes les salles d'arcade il y a une dizaine d'années. Enfin, tu me parles de choses que je connais, mais c'est vrai que peut-être les, j'allais dire un truc très con, mais les plus jeunes générations, les plus jeunes d'entre nous connaissent peut-être pas. Et c'est vrai que c'est énorme à jouer. C'est enfin moi je rêvais d'avoir ça dans mon salon. Donc
bah oui complètement. Et aujourd'hui comme il y a plus de salles, on va croiser ça dans des peut-être fêtes foraines ou les quelques salles d'arcade qui restent en France. Mais voilà, il y a la tête dans les nuages à Paris, une salle à Toulouse, basta.
Donc vous allez avoir en tout combien de bornes? Est-ce que ça va être c'est dans une salle? Vous avez recréé l'ambiance justement de ces salles d'arcade de l'époque?
Alors c'est pas dans une salle fermée puisque donc ce sera au sein du grand espace dédié à tout le festival, mais on va faire un petit espace un peu plus renfermé pour créer ce côté salle d'arcade. L'année dernière il y avait une quinzaine de bornes dans cet espace là on en a plus à disposition, on a un paquet de bornes d'arcade d'ailleurs, mais le hic c'est de pouvoir toutes les déplacer le jour de l'événement, et ça c'est pas toujours évident.
Et bornes d'arcade gratuites, on peut accéder gratuitement, est-ce qu'il faut mettre la pièce?
C'est tout est en free play, et malgré le fait que ce soit en free play, on arrive à retrouver des pièces dans les monnayeurs à la fin de l'événement.
C'est un don,
que tu vois des gens ont le réflexe et véridique de venir et de mettre leurs pièces dans le monnayeur.
C'est assez énorme
pour
ça.
Jouer
ouais, voilà. Écoute, très bien, donc de la compétition, des jeux d'arcade, du rétro gaming aussi. Je pense que ça fait partie d'une suite logique, hein, ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Bien entendu, il y a même 6 ans, quand vous avez commencé vos festivals, enfin la première édition, vous jouiez pas forcément sur les mêmes consoles qu'aujourd'hui. Donc je crois que la Dreamcast notamment était une des premières consoles à proposer vraiment de l'arcade à la maison.
C'est vrai.
Donc le rétro gaming, c'était assez évident qu'il y en ait au Stunfest.
Bah oui, pour nous ça semble naturel. Alors on va passer pour des vieux croutons là, mais c'est-à-dire que notre génération entre 25 et 30 ans, on a tous joué sur ces consoles dites aujourd'hui rétro, et pour nous il n'y a aucune raison de les mettre de côté. Donc oui, au Stunfest on met du rétro forcément parce que certains types de jeux ne seront, c'est même pas une question de les égaler, mais tu le sais aussi bien que moi, voilà, rien n'égalera un Pac-Man. T'as beau refaire un Pac-Man en HD,
ça reste Pac-Man.
Il est aussi génial sur borne d'arcade ou sur Atari, quoi. Et c'est le cas pour plein de jeux.
Donc,
voire certains qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui, même sur le Xbox Live Arcade ou des choses comme ça. Voilà, il y a des choses qui n'ont d'intérêt à être jouées que sur leur console d'origine, quoi.
Donc, au Stunfest, il y aura un espace rétro gaming. Donc, j'imagine avec de vieilles consoles, de vieilles bornes d'arcade, des choses comme ça.
C'est ça, voilà. Alors, vieilles bornes d'arcade, ça sera en même temps que toutes les bornes qu'on a. Donc, il y a du récent et du moins récent. Et puis oui, des espaces rétro gaming où on retrouve de tout, NES, Super NES, Mega Drive, des machines NEC, PC Engine et compagnie, du encore plus rétro, de l'Atari, mais aussi autre que console, du Commodore, de l'Amiga. En gros, on cherche pas à mettre en scène tel ou tel support absolument, c'est tiens, il y a tel jeu, ce serait génial de le mettre. Bon, on va trouver la machine et on le met tel quel. On va pas mettre un émulateur à la place, voilà.
D'accord, avec cette optique que les choses soient jouables.
Tout à fait. Tout est jouable au public, rien n'est mis sous vitrine juste pour le montrer et faire joli. Les jeux vidéo sont faits pour être joués. Et
à côté de ça, il y a un espace histoire et patrimoine vidéoludique, donc sorte de petit musée du jeu vidéo.
Voilà, alors là je pourrais pas trop en dire plus pour le moment. Les années passées, on avait l'assaut RGC qui était là, qui s'intéresse particulièrement à ça. Je n'ai pas encore eu de réponse de leur part. Je vous lance un appel, RGC, répondez-nous.
Si vous écoutez cette émission.
Et qui présentent des machines, voilà, avec des petites notices explicatives, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que c'est sorti, etc., etc.
D'accord. Alors bien entendu, des stands avec les nouveautés jeux vidéo, du jeu import.
Oui, il y aura aussi des nouveautés.
C'est-à-dire
que même si c'est pas des stands commerciaux, voilà, ça reste des passionnés, des gens qui ont une collection de machines rétro, mais aussi des jeux plus récents. Donc des jeux sortis dans les mois passés sur Xbox, sur PS3, on retrouve de tout.
Donc il y a aussi, donc voilà, tu l'as dit, donc des stands associatifs. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre, quelle est la proportion, l'importance que vous donnez malgré tout aux choses, hein, sans dire qu'un truc est plus important qu'un autre. L'espace, compétition, c'est quand même le truc que vous mettez le plus en avant dans le salon. C'est ce qui va prendre le plus de place.
Si on parle en termes de place, sur les 2000 mètres carrés, il y a un tiers qui est pris par la zone compétition, jeu de combat. Et les deux tiers restants, c'est les stands. Donc jeux rétro, jeux musicaux, shoot 'em up, puzzle games. Il y aura quelques radios et tout qui sont là en fait pour retransmettre et puis faire des interviews des joueurs. Il y a des espaces rencontres comme ça entre les joueurs.
Je sais pas si Game Radio sera là. On va essayer de venir. En tout cas, je sais que Bagropoint, le podcast Bagropoint seront présents. Il y a sans doute, je crois qu'une radio locale, enfin Radio Campus locale sera là. Peut-être Virgin 17, qui sait, qui est un de vos partenaires, si je me trompe pas.
Oui, alors c'est Virgin Radio qui est partenaire. Virgin 17. On les accueillera avec plaisir. J'ai pas eu de nouvelles de leur part, mais
d'accord. S'ils nous écoutent, ce qui m'étonnerait, voilà. Le Stunfest attend de vos nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Il y aura un stand, oui, on ne l'a pas évoqué. J'essaye de me remettre les idées dans l'ordre en même temps.
Écoute, ça fait presque une heure qu'on discute.
On va l'appeler comme ça, toujours animé par des fans. Hein, ça n'a rien d'officiel. Avec des tournois Smash Bros, du Mario Kart.
Est-ce que par hasard, c'est la Nintendo League?
Non, ce n'est pas la Nintendo League. Non, c'est des joueurs de par chez nous, de l'assaut, de Troy de Combo. Ils veulent mettre en avant Monster Hunter 3 justement parce qu'ils sont à fond dessus. Donc c'est toujours pareil, tu vois comment ça se passe. On a des joueurs qui jouent en ce moment à Monster Hunter, qui aiment le jeu. Allez, tac, on va prendre Monster Hunter.
Un peu comme nous, on en parlera mercredi sur Game Radio de Monster Hunter, normalement, avec Shoham s'il a réussi à me rejoindre. Truc super important, un concert le soir, puisque c'est donc samedi dimanche, et ça finit assez tard dans la nuit, tu vas nous le rappeler, ça je sais plus exactement, 5h
oui,
cette année
quoi. Alors, l'heure de début, ça sera après que la partie compétition, enfin que les finales soient finies, donc on table sur du 22-23h pour le début du concert. Donc le groupe, c'est les Flying Penguins. Ils reprennent globalement des thèmes de jeux vidéo connus en instrumental agrémenté de son électro voilà. Donc il y aura eux et Dr Von Knock a priori qui fera un mix qui lui mixe sur des Game Boy.
D'accord.
Donc plus clairement plus du chiptune.
Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est de la musique faite avec des sons 8 bits, des sons de l'époque plus ou moins émulés, hein, on peut maintenant aujourd'hui récupérer tous ces sons et composer avec, et c'est vrai que le résultat est parfois surprenant, en tout cas pas si limité et ringard que ce qu'on pourrait penser. Il y a de vrais beaux morceaux
Tu vois, j'y pense. Alors décidément, à force de parler, je repense à des animations en plus outre les stands de jeux vidéo par rapport à la micro musique chiptune. Il y aura un stand chiptune circuit bending.
Alors là, attention, faut que tu m'expliques encore des mots barbares. Ouais.
Le circuit bending, c'est un procédé, on va l'appeler comme ça, utilisé pour modifier des machines et arriver à créer du son et faire du chiptune avec.
D'accord.
Concrètement, on prend une vieille console de jeux vidéo, un vieux jouet électronique, une petite guitare électrique à 3 francs 6 sous en plastique, on modifie les circuits, on rajoute 2-3 trucs et on s'en sert pour créer de la musique. Et donc il y aura un stand comme ça, ouvert à tout un chacun pour s'essayer au circuit bending ou à des trackers sur Amiga, jouer avec une batterie Guitar Hero sur un Amiga, des choses comme ça.
Ça c'est vraiment bien, en plus, super original en plus, très bien.
Ouais, ça c'est inhabituel ça.
En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire sur 2 jours, à voir. Je trouve que vous avez proposé quelque chose d'assez complet. Alors, en laissant de côté quelque part aussi, moi je tenais à le souligner, beaucoup d'autres aspects de cette fameuse culture jeu vidéo. Est-ce que vous pensez que vous pourriez y venir aussi? Le côté manga, japanime, cosplay, toutes ces choses-là, la J-pop, qu'on trouve souvent dans la plupart des festivals. Est-ce que ça, c'est quelque chose vers lequel vous pensez aller ou c'est quelque chose que vous avez décidé de ne pas aborder dans le Stunfest?
Alors, c'est délicat. Dire qu'on a décidé de pas l'aborder, je peux pas dire ça comme ça au sens où on ne ferme jamais complètement une porte à un moyen d'expression ou un autre, mais on a tenté par le passé et ça a été des semi-échecs, on va dire. À savoir, on a essayé un autre à côté des jeux vidéo, on a essayé de la LAN au Stunfest. On avait prévu une LAN avec une asso rennaise qui s'en occupait.
Ouais.
Il y a eu quasiment personne. Donc on a oublié, on a laissé tomber. On a tenté cosplay une année. Un cosplay spécial jeu vidéo. Il y a eu un petit peu de monde, mais c'était plus anecdotique qu'autre chose. Et voilà, donc non, une fois de plus, ça n'avait pas vraiment sa place au sein de l'événement. Mais attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne réessayera pas plus tard si on en fait une proposition, mais pourquoi pas. Et après, c'est vrai que le reste, On est un peu contre le pont qui est fait entre manga, J-pop, Japanime et les jeux vidéo. C'est pas parce que les jeux vidéo c'est majoritairement issu du Japon qu'il faut forcément y rapprocher les autres cultures.
En tout cas, voilà, le Stunfest c'est pas ça. Le Stunfest c'est pas ça. Le Stunfest, si on y va, c'est pour vivre une vraie compétition de jeux vidéo autour du versus fighting avant tout, je crois. C'est se retrouver dans cette ambiance.
Ça, mais voilà, faut pas négliger le reste. Parce que bah, certains vont dire bon ouais mais les jeux vidéo je m'en fiche donc je peux pas aller là-bas et c'est un moyen de découvrir le versus fighting sous un autre jour quoi sans être forcément consommateur joueur et de s'adonner à toutes les autres formes de jeux qu'on a évoquées avant quoi.
Mais en tout cas voilà moi je trouve qu'il y a une vraie force underground dans votre Stunfest dans votre festival. On le voit rien qu'en arrivant sur le site quoi il y a pas de code préétabli. Bon si celui de l'arcade c'est vrai qu'il est assez présent mais en soi il y a pas de c'est assez unique. Moi je trouve ça assez unique donc assez fort. Je pense que vous allez avoir beaucoup de succès cette année encore à mon avis. En tout cas je vous le souhaite.
Aussi.
Voilà, est-ce que toi tu penses qu'on peut rajouter quelque chose là ?
Rajouter quelque chose, appeler tout le monde à venir à l'événement les joueurs les plus fous
Alors moi si je puis me permettre, moi j'ai découvert Stunfest en surfant sur des forums, on en parle beaucoup. Aujourd'hui les gamers donc tu sais il y a les casuals, les hardcore gamers, je pense que quand on est un gamer, on ne peut pas ne pas aller au Stunfest, si je puis me permettre de le dire. Et c'est ce que je ressens dans les forums, il y a un vrai engouement pour votre festival. On sent qu'il faut aller vivre cet événement.
Ouais, ce qui se passe en fait des fois, c'est que les gens sont un peu dubitatifs sur l'événement à se dire effectivement bah comme ça ressemble à rien, les gens vont peut-être douter de ce qu'ils peuvent y trouver. La seule chose que je peux dire à ces personnes-là qui doutent de ce qu'ils peuvent trouver au Stunfest, c'est que tous ceux qui y sont venus une fois ont halluciné, ils se sont dit mais c'est quoi ce truc, c'est fou, ça existe nulle part ailleurs, il y a des jeux dans tous les sens, on s'ennuie pas une minute, et sont repartis avec un sourire jusqu'aux oreilles. Donc si ça peut les convaincre de venir au moins voir à quoi ça ressemble, donc, ce serait chouette.
Voilà, donc allez sur le site du Stunfest, qui est donc le http://stunfest2010.troidcombo.fr.
Voilà. Donc sinon, un petit truc, je vais écarter un doute qui peut planer, parce que en fouinant sur certains forums, j'ai vu que certaines personnes avaient cru à un énorme poisson d'avril que l'on a lancé le 1er avril, comme quoi Jean-Claude Van Damme venait au Stunfest.
Ça aurait été pas mal.
Pour illustrer les jeux de combat, et apparemment certains y croient sur les forums. Alors bon, même si on serait ravis d'accueillir Jean-Claude Van Damme ou autre icône
du cinéma consacré aux jeux vidéo
incarné, peut-être qu'un jour on aura Chuck Norris au Stunfest et ce serait trop beau. Non, faut pas rêver. Ouais. Donc non, malheureusement il y aura pas Jean-Claude Van Damme au Stunfest. Mais...
Ah mince, quel dommage. Dommage. En tout cas, ça se passe le 22-23 mai prochain à Rennes, donc il y a un site internet, je vous l'ai dit. On n'a pas parlé du prix d'entrée, c'est 45€ l'entrée et 47€ pour le week-end. Non, je déconne. Non, justement, c'est important de le dire, 5€ à peine pour venir le samedi ou le dimanche, 7€ pour y passer le week-end entier. C'est rien du tout, c'est donné. Donc
c'était gratuit il y a 2 ans en fait. L'année dernière on était un petit peu moins cher que ça. Là on est arrivé à ce prix-là. On va essayer de s'y fixer, de pas en bouger. Mais voilà, avec l'augmentation de la taille de l'événement, le transport des machines là pour transporter, enfin tout ça, ça a un coût. Je dis ça parce que je veux être transparent sur la chose. Voilà, faut rappeler aux gens que on se fait pas d'argent avec le Stunfest. Si on augmente les prix, c'est pas pour que je roule en Rolls-Royce. Non, c'est pour trimballer des bornes. On a peut-être un super camion V8. C'est tout ce qu'on a pour trimballer nos bornes là, ça nous coûte cher. Donc voilà pourquoi le prix est un petit peu plus élevé. Mais reste, on l'espère modique.
C'est le prix d'un paquet de clopes, hein. Donc on peut
oui,
se permettre
faut faire de faire des comparaisons. Oui, c'est le prix d'un paquet de clopes, voilà. D'une bouffe, je sais pas où, mais voilà.
Donc en tout cas, allez sur le site pour en savoir un peu plus. Vous aurez toutes les infos. Vous aurez même plus de choses que peut-être ce qu'on a dit là en une heure. Enfin, en tout cas, on a essayé de faire le point sur le Stunfest. C'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on essaiera de venir faire un tour pour relayer un petit peu, donner nos impressions sur ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu là-bas. Donc c'est le 22-23 mai. Allez-y, n'hésitez pas. C'est selon moi le plus intéressant des festivals consacrés aux jeux vidéo actuels en France, en tout cas le plus, j'allais dire underground, le plus, comment dire, le mot m'échappe, attends, le plus authentique à mon sens.
Ah ouais, c'est vraiment ce qu'on essaye de, d'être vrai, de pas se mentir et de pas se vendre à qui que ce soit. et de garder notre indépendance. Ouais.
Voilà. Et vive la Bretagne une fois de plus. Je.
Ah bah, alors oui. Alors si tu rajoutes le côté Bretagne sur l'indépendance, alors là il y en a qui. Non, non, nous ne sommes pas des indépendantistes bretons qui essayons d'investir le milieu du jeu vidéo.
Donc. En tout cas, gamers, réunissez-vous, trouvez des caisses, des voitures et puis montez si vous arrivez.
Ouais, si les gens vont sur les forums, il y a plein de covoiturage de gens qui montent. Il y a moyen de s'arranger.
C'est une fête. Hein. C'est vraiment, j'allais dire, une teuf autour du jeu vidéo. Je pense qu'on
Exactement.
Peut le dire.
Ouais.
Voilà, très bien. Bah écoutez, Emeric, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Schwab n'était pas là, on le retrouve dès demain normalement avec moi, donc pour le podcast du mardi. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, très bonne soirée, à très bientôt sur Game Radio. Salut Emeric, merci.
Ciao, merci. Game Radio.